France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe, nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour l'actualité du disque et nous allons voyager et pour l'instant, nous allons dans l'Ouest américain.
From Independence Town, he won a college scholar to a man of great renown. He won a college scholar and a man of great renown, but he had a way of doing things and doing them up wrong. Drive four pair of horses just like you'll drive your own team. And you think there was a traveling on a railroad train by steam. He'd get that wagon there on time and it'd bust a seam. Cause he loved those strong white horses just as cause he loves green.
He said he came to Sacramento on a boat named Jenny Lind, then headed west like all the rest and went digging in the mines.
He carried mail and carried passengers and started on the dart, and his team's horses, so they say, was never known to trot. And them team of his'n, so they say, was never known to trot. But they went it at a gallop and kept their axles hot.
The first stop he signed for was in a place called Negro Hills. His work there was a futile chore, left him nothing but more bills.
And Neddy didn't allow no fooling when engines hove in sight, and when bullets rattled up the stage, he'd drove with all his might. When bullets rattled up the stage, he'd drove with all his might. He'd holler, fellas, give him hell, I ain't got time to fight.
He said that later in the southern mines his luck turned up the shine, but the man who owned his contract played him foul and wouldn't pay.
Then the way the wheels would rattle and the way the dust would fly, you'd think a million cattle had stampeded and gone by.
They sent a king of thorns to threaten him, knocked him down, and scored him with a knife.
Once the mail had get there, just the same,
you should be glad that two good horses just are alive.
You'd
once a slave, but now a freeman, they'd rather be hanged than let him go mad.
But the man kept on just the same,
we'll never see him
if the horses hadn't died.
Et on ouvre donc cette émission avec un opéra de John Adams que je ne connaissais pas. Vous le connaissiez, vous, Girls of the Golden West ?
Non, ça ne me dit rien du tout.
Alors écoutez, ça n'a pas été très bien accueilli lors de la création à San Francisco en 2017, donc je me dis que c'est peut-être pour cela. L'opéra met en scène des épisodes de La Ruée vers l'or et c'est Peter Sellars qui signe le livret. Il a puisé son inspiration dans les écrits de Louise Kleip, une jeune femme ayant vécu durant 18 mois dans le campement de mineurs de Ridge Bar en Californie. Elle a raconté ses illusions et surtout ses désillusions dans une série de lettres envoyées à sa sœur sous le pseudonyme de Dame Shirley. Sellars s'est aussi inspiré de récits de Mark Twain et de différents articles de journaux. Et ils ont voulu, avec John Adams, montrer la diversité de ces chercheurs d'or, des Américains venus de tous les États-Unis, des esclaves en fuite ou encore des étrangers originaires de Chine, d'Amérique latine ou d'Europe. Tous pensaient trouver de l'or et devenir riches, mais ils ont surtout été confrontés à la pauvreté, le sexisme, la violence, le racisme et l'exclusion. Et c'est une histoire violente que celle donc de La Ruée vers l'or, nous disent le musicien et son librettiste. Ils ont voulu la raconter à travers les yeux d'une Américaine, d'une Mexicaine, d'une Chinoise et d'une Afro-Américaine.
This very nearly was the cause of hanging, oh poor friend Nell. The mob were for dispatching him right there. No jury, just hurried justice. It was only through the pleading by his friends, only through their honest interceding, that this decent man was spared. Tengo miedo de mi alma. no puedo llorar. No puedo llorar. Dame tus manos. Dame tus manos. Y verás como el alma se resbala tranquilamente.
Blessed and praised be the night of the married man. You know the words and verses of the wedding song. Think of the dancing we'll do, the clothes we'll wear, the feasting, the laughter, the elders, the children, our dearest friends.
Tengo miedo de mi alma. Tengo miedo de mi alma.
Les voix de Julia Bullock, Daniela Mack, Elliot Mador avec le Philharmonique de Los Angeles dirigé par le compositeur John Adams. C'est donc son opéra Girls of the Golden West dont vous venez d'entendre un extrait. C'est enregistré et ça vient tout juste de sortir. C'est notre disque du soir à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr.
France Musique en piste contemporain. Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Et voilà un disque qui va vous faire plaisir, Émilie, parce que je sais que c'est un compositeur que vous aimez beaucoup.
Ah oui, c'est vrai.
Régulièrement, grand coup de cœur pour vous et vous avez une fascination pour sa musique. Compositeur français, un disque ici consacré à ses études. 12 études jouées par 6 pianistes différents.
Mais qui est-il ? Vous ne nous avez pas dit son nom.
Ah mais c'est bah oui, vous avez raison.
Quand même.
Je pensais que vous alliez le reconnaître tout de suite.
Ah mais moi je l'ai reconnu, mais je ne suis pas seule à écouter
dès
l'émission, j'espère.
Notes, Fabien Touchard.
Thank you.
Composée entre 2010 et 2022, elle représente des questionnements sur l'écriture pour piano. C'est ce que nous dit Fabien Touchard à propos de ses études. Vous venez d'entendre une étude qui s'appelle Littoral et qui était jouée ici par Guillaume Sigier. 6 pianistes donc pour défendre cette musique. Alors on y retrouve tout ce qui fait l'ADN d'une étude. Pour vous, c'est quoi une étude pour piano ?
Ah bah de la virtuosité.
Exactement, la virtuosité. En revanche, dit Fabien Touchard, j'ai voulu m'éloigner de cette tradition en proposant des pièces très narratives, discontinues, avec des ruptures formelles et pas nécessairement axées autour d'un principe unique. Vous savez, l'étude, par exemple, étude pour les notes répétées,
oui.
Pour les arpèges, des choses comme ça. Chaque étude trouve ici son Pygmalion compositeur pianiste, Debussy, Horowitz, Artetum, Brahms, des personnalités vraiment différentes. Et celle que nous allons entendre s'appelle Ébauche de vertige. Elle est dédiée à Brahms et elle est jouée par un autre pianiste-compositeur qu'on aime beaucoup dans cette émission, Orlando Bass.
Thank you.
Alors Émilie, est-ce que vous avez reconnu l'univers pianistique ou même plutôt musical de Fabien Touchard que vous aimez tant? Ici la sixième étude pour piano par le pianiste Orlando Bass, pianiste et compositeur.
Et vous avez vu que je partage, c'est pas moi qui ai écouté ce disque.
Mais oui, vous me l'aviez donné, parce que vous ne voulez pas être soupçonné de favoritisme dans le milieu de la création.
tout à fait, ça m'embêterait quand même.
Mais, alors, vous qui êtes impartial.
Voilà, donc moi je suis partie en Australie.
Plutôt partial. Ouais.
c'est ça, mais non, je devrais être impartial. Voilà. Et je suis partie en Australie pour vous trouver deux artistes. Ah oui, je me suis dit, je ne peux pas rester qu'en France, je dois parfois aller vers d'autres univers. Et j'ai rencontré le flûtiste Xavier Locke et le pianiste Daniel Linton France.
Alors leur Australie.
En Australie, absolument, oui, même si son nom a le nom d'autre pays aussi. Leur programme regroupe des pièces de Schubert et de Kulao, mais aussi une œuvre étonnante signée donc par le pianiste du disque, qui est aussi compositeur, né en 1973, et donc ce fameux Daniel Linton France. Et la pièce s'appelle « Lors d'une leçon de magie », et elle est née de l'esprit du flûtiste Xavier Locke, qui a proposé donc à son ami pianiste d'écrire une pièce virtuose à partir de mélodies de la flûte enchantée de Mozart. Et c'est une idée qui a enthousiasmé le compositeur, qui a décidé de revenir aux origines de la flûte. Donc le morceau commence par le pianiste qui tape sur le bois de son piano. Comme un facteur d'instrument frapperait sur différents bois pour identifier celui qui possède les plus belles qualités pour fabriquer un bon instrument de musique. Et puis le facteur va commencer à tailler le bois pour faire naître la flûte. Donc on va avoir un dialogue percussif entre les deux artistes. Et puis petit à petit, cette flûte va voir le jour et donc ses lignes mélodiques vont devenir de plus en plus longues et de plus en plus construites. Et elle va chanter des airs de l'opéra, la flûte enchantée.
D'accord.
De Mozart, voilà, une fois qu'elle a été faite. Et après, il y aura donc des variations autour de ces airs. Voici donc ce que ça donne. On va en écouter plus de la moitié de la pièce. Thank you. lors d'une leçon de magie à la musique de Daniel Linton France autour donc de la flûte enchantée, d'art de la flûte enchantée de Mozart, et c'est le flûtiste Xavier Locke et le compositeur au piano.
Une personnalité libre, étonnante, intrigante, c'est Jean-Louis Argout. Est-ce que vous connaissez ce compositeur, Émilie ? Compositeur, improvisateur, saxophoniste, clarinettiste, à mi-chemin entre le jazz et les musiques contemporaines, c'est un homme passionné par les spectacles pluridisciplinaires. Il a travaillé avec Bertrand Dubedoux au Conservatoire de Toulouse et son œuvre se déploie plutôt du côté électroacoustique. Et là, on va entendre chant électromagnétique. C'est une très belle partition qui est dédiée à Bernard Parmigiani. Sept chants, je vous lis, alors attention Émilie, je vous lis la description du septième chant faite par le compositeur. Les sons d'origine acoustique, plus ou moins lisses ou modulées, sont mixés à différentes hauteurs dans un crescendo et décrescendo par accumulation de fréquences et des voix par des chocs graves.
Peut-être que je vais écouter la musique.
Eh bien,
pour
je dois vous dire que l'œuvre est plus poétique que sa description.
D'accord.
Et tant mieux, parce que c'est une bien belle partition que nous allons écouter ici, Lux Tenebris de Jean-Louis Argout. La musique de Jean-Louis Argout, Lux Tenebris. Alors on est vraiment dans un monde sonore fascinant ici, dans ce disque.
C'est le moment du journal de la création.
Bonsoir Laurent Villarem.
Bonsoir Rodolphe.
Bonsoir Émilie.
Alors ce soir, on commence très fort car j'ai deux questions.
Ah
oui.
Oh là là.
La première, est-ce que vous pourriez me citer des familles célèbres de musiciens ?
De l'époque ?
Non, en général.
Ah bah les Bach,
oui,
la famille Bach.
D'interprète ou de
d'interprète,
ouais,
d'interprète.
Ah, d'interprète.
Et de compositeur.
Bah, les Janssons.
Ah, bah, tout ce qu'on veut alors.
Oui.
Les Capucins, oui. Les Labeck.
Alors le 26 avril, la chef lituanienne Mirga Gražinytė-Tyla dirige le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France à la Philharmonie de Paris pour interpréter une œuvre de son père, Romualdas Gražinys. C'est rarissime, non, qu'un enfant interprète la musique de son père.
Bah oui.
Et ma deuxième question, je préviens, ce n'est pas pour le petit déjeuner. Est-ce que vous savez ce qu'est un sutartiné ?
Ah non, alors si c'est pas pour le petit déjeuner, je sais pas.
Alors j'ai trouvé une définition. Ce sont des chants polyphoniques lituaniens chantés uniquement par des femmes, en canon strict, en seconde parallèle, reconnus comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
Vous nous apprenez quelque chose.
Romualdas Gražinys en propose une relecture moderne, et c'est donc sa fille Mirga qui dirige le chœur de Radio France le 26 avril à la Philharmonie de Paris. Un extrait de Sutartiné de Romualdas Gražinys. Cette semaine, on parle de famille dans le journal. Vous connaissez l'adage, on ne choisit pas sa famille, mais...
On choisit ses amis.
Oui. Alors, je voudrais vous parler de deux événements qui sont comme des rendez-vous de famille. Le premier est un concert de la coopérative Sfota, qui regroupe notamment les compositeurs Benjamin de la Fuente et Samuel Siguicelli. Cela fait 24 ans que les deux compositeurs travaillent ensemble et produisent des spectacles étonnants, notamment avec le groupe Caravaggio, souvent à la frontière du rock et de la performance. Aux côtés de la violoniste Constance Ronzatti et de la pianiste Claudine Simon, dont on a parlé le mois dernier, le duo propose un magnifique nouveau projet, Sonata, qui est donné le 16 avril à la Friche Belle de Mai de Marseille, puis du 28 au 30 mai à Vendeuvre-les-Nancy. J'ai demandé à Benjamin de la Fuente s'il n'avait pas l'impression de former une famille avec Samuel Siguicelli.
Oui, on peut dire en quelque sorte que, qu'entre Samuel Siguicelli et moi, c'est une histoire qui relève de la fraternité. On a monté notre compagnie Sfota il y a 24 ans et développé ensemble une pensée du faire musical. La particularité première de Sonata, bah, c'est le fait que c'est un projet qui est une création pour deux duos violon-piano et violon et clavier électronique et qui joue simultanément dans deux espaces distincts. Dans une salle, la violoniste Constance Ronzatti et la pianiste Claudine Simon interprètent la sonate de Grieg, numéro 3. Et dans l'autre salle, Samuel Siguicelli et moi, on récupère par Wi-Fi des fragments de cette même musique romantique pour en faire la matière première traitée par l'électronique de notre performance. Et dans cette même salle, le public est sous casque pour une véritable immersion dans la matière sonore.
Ça a l'air étonnant, non ?
Ah oui,
ben ouais.
Ouais.
On écoute un court extrait d'un album de Caravaggio, constitué notamment de Benjamin de la Fuente et Samuel Siguicelli. Création du spectacle Sonata, le 16 avril à Marseille, puis du 28 au 30 mai à Vendeuvre-les-Nancy. Le deuxième événement familial est le festival Absence, qui présente dimanche prochain sa 5e édition. C'est un groupe de passionnés, dirigé par Michael Bernard, qui propose deux fois par an des concerts étonnants dans un atelier d'artistes. On y est accueilli en amis. C'est au 19 rue Sainte-Marthe à Paris, métro Belleville ou Goncourt. J'ai demandé à Michael Bernard si le festival Absence était une affaire de famille.
Alors oui, les concerts d'art contemporain Absence, c'est des grandes réunions de famille parce que ça concerne une trentaine d'artistes à chaque fois. On est tous amis ou amis d'amis et on se connaît plutôt très bien. On se voit régulièrement pour élaborer la programmation, pour s'entraider sur nos compositions. Et finalement, c'est comme ça qu'on crée du lien. Même la personne qui nous prête le lieu est une très très bonne amie. C'est un peu notre grand-mère. Donc la programmation pour le prochain Absence, elle est dédiée aux quatuors à cordes parce que nous, on fait que de la musique acoustique et donc pas d'électronique. C'est des concerts sans électronique, même pas pour les lumières. Et donc là, on utilise le quatuor à cordes sur toutes ses formes. Il va y avoir pas mal de pièces bizarres, des pièces moins bizarres et de toute nationalité.
Des pièces bizarres ?
Oui, on va avoir un quatuor à cordes et perceuses, par exemple, en collaboration avec un plasticien. On va avoir un quatuor qui hurlera comme des poissonniers et des poissonnières du Moyen-Âge. On va avoir un quatuor à cordes aussi, des quatuors à cordes écrits sous forme de partition graphique, plus ou moins détaillées. On va, et aussi, bien entendu, des quatuors à cordes plus écrits de façon 21e siècle, on va dire. Voilà.
Très belle initiative à soutenir. Festival Absence, dimanche après-midi au 19 rue Sainte-Marthe dans le 10e à Paris. Et le prix est libre. J'ai une troisième et dernière question pour vous ce soir. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la forme du concerto dans la musique contemporaine ?
Ah bah ça, il y a toujours énormément de belles choses.
Mais oui, et puis...
Les concertos pour trompette, j'aime bien moi,
la musique contemporaine. Ah, vous êtes très, très concertante. Et puis on en a écouté un aussi, concerto pour percussion, où il y avait de la voix.
Oui.
Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas moins de 3 rendez-vous concertants cette semaine, dont un avec Thierry Esquèche. Écoutons un extrait du premier concerto pour violon de Thierry Esquèche qui date de 2009. Le 19 avril à la Philharmonie de Paris, Renaud Capuçon offre à la création française du deuxième concerto pour violon d'Esquèche, Au-delà du rêve, et c'est l'orchestre philharmonique de Munich dirigé par Daniel Harding qui l'accompagne. Deuxième concerto, le 18 avril, soit jeudi à Radio France, Béchara El Khoury présente un concerto pour orchestre intitulé Le Mont Hermon. Et c'est l'Orchestre National de France dirigé par Raphaël Payari qui joue, ce qui s'annonce comme une symphonie alpestre dans les montagnes du Liban. Et enfin, on quitte Paris pour Lyon, car l'Orchestre National de Lyon présente la création française du concerto pour clavecin de Gavin Bryars. Cette fois, c'est samedi à Lyon donc, Mahan et Stéphanie au clavecin, le National de Lyon, dirigé par Andrew Menz. Voici donc l'actualité du concerto. Donc jeudi à Radio France, Béchara El Khoury, vendredi à la Philharmonie, Thierry Esquèche, et samedi à Lyon, Gavin Bryars. On se quitte avec un extrait du concerto pour violoncelle de Gavin Bryars, Farewell to Philosophy. De Farewell to Philosophy de Gavin Bryars.
Merci beaucoup Laurent Villarem, à la semaine prochaine. Merci à Fanny Constant qui réalisait cette émission ce soir avec José Bernays et Colline Redon.
À réécouter sur francemusique.fr.